Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Je vous invite à lire un texte. On va faire deux fois la lecture. La première lecture, nous allons la faire. Alors, vous pouvez l'écouter, mais vous allez me suivre avec votre traduction à vous. C'est ce qu'on appelle la Bible dynamique, hein, version moderne. Alors, écoutez. Écoutez, puis je ferai le commentaire sur la version que vous avez également. Alors, donc, c'est dans Luc, chapitre 13. Et c'est intéressant de prendre en considération parce que nous nous apercevons que Jésus nous donne, moi je pense, la bonne réponse dans tout ça. Devant les perplexités, les questions que nous pouvons nous poser avec les faits de ce que nous connaissons aujourd'hui, de l'événement d'hier, de l'événement de ce qui s'est passé au mois de novembre, ce qui s'est passé à Bruxelles, ce qui s'est passé là en janvier 2015, et puis de tout ce qui se passe dans le monde entier, parce qu'on n'est pas les seuls. Hein. Quand on voit que ce qui nous frappe aujourd'hui, c'est quelque chose d'un problème récurrent, qui arrive plusieurs fois par semaine dans les pays qui sont actuellement en guerre. Plusieurs fois par semaine. Alors, réfléchissons à la question. Je lis ceci. Luc, chapitre 13, verset 1er. À ce moment, survinrent quelques personnes qui racontèrent à Jésus que Pilate avait fait tuer des Galiléens pendant qu'ils offraient leur sacrifice. Jésus leur dit, « Croyez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes ? Non, pas du tout. Mais vous, si vous ne changez pas dans votre Bible, si vous ne vous repentez pas, si vous ne changez pas, c'est pour ça que j'ai choisi, vous périrez tous également. Rappelez-vous ces 18 personnes qui ont été tuées quand la tour de Siloé s'est écroulée sur elles. Croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, pas du tout. Mais vous, si vous ne changez pas, vous périrez tous. Je n'oublie pas la suite, parce que quand on prend ce texte-là, il faut lire la suite, qui peut-être semble en dehors du sujet, mais c'est vraiment la solution. Écoutez bien, là-dessus, vous pourrez peut-être traduire sur ces entrefaites, ou par conséquence. Il leur raconta cette parabole, Jésus leur raconta cette histoire. Un homme avait un figuier dans sa vigne. Un jour, il voulut cueillir des figues, mais n'en trouva pas une seule. Alors il dit à celui qui s'occupait de sa vigne, « Cela fait 3 ans que je cherche, que je viens chercher des figues à cet arbre, et il ne m'en a pas encore donné une seule. Arrache-le, je ne vois pas pourquoi il occupe la place inutilement. » Maître, lui répondit l'homme, « Laisse-le encore une année. Je bêcherai la terre tout autour et j'y mettrai du fumier, de l'engrais. » Peut-être qu'il portera du fruit la saison prochaine, sinon il sera toujours temps de l'arracher. Alors ça, c'est la version qui est version moderne. Maintenant, je ne vais pas relire parce qu'on va la commenter ensemble hein, au fur et à mesure. Il y a là ce que nous pourrions appeler, et retenez bien, ce que j'appellerais le langage des drames humains. Le langage. Langage silencieux, langage souvent imperceptible, langage qui, eh bien, normalement, devrait nous interpeller, je dis bien, devrait nous interpeller parce que il y a toujours une cause à effet. Il y a toujours, dans toute situation, heureuse ou malheureuse, il y a toujours une racine. Racine du bien heureux. Racine du mal, malheureux. Et Jésus va aborder le sujet à la suite d'une question qui lui est posée. Il nous est dit qu'il y a là un groupe de gens qui se rassemblent autour de Jésus, et ces gens sont choqués, ces gens sont scandalisés. Et il y a de quoi ? Alors, le fait, nous allons le voir. Mais il y a quelque chose qui les interpelle, qui se disent, mais pourquoi ? Parce que devant les drames, devant les catastrophes, de quelque nature soit-elle, qu'elle soit le fait des hommes ou qu'elle soit le fait de la nature elle-même, déchaînée à travers hein, les tsunamis, hein, les intempéries, enfin bon, tout ce que l'on peut imaginer, des circonstances concomitantes, parce que souvent, eh bien, il y a là un effet, et il n'y a pas seulement qu'un accident, mais c'est une suite d'accidents. On appelle ça des séries noires. Si vous voulez en avoir une bonne idée, eh bien, vous lisez le chapitre premier du livre de Job, où les choses n'arrivent les unes après les autres, et ça n'en finit pas. Que des catastrophes dans le livre de Job. C'est lui qui en est la victime. Et nous nous apercevons que les situations d'aujourd'hui comme d'hier ont tous la même raison. Ils ont tous la même cause. Alors n'essayons pas d'épiloguer et de chercher. Aujourd'hui, lorsque nous regardons les informations et que nous les prenons, lorsque nous voyons ce qui s'est passé, vous vous rendez compte, hein, tous ces gens, 84 morts, 10 enfants parmi ces 84 morts, 200 qui sont encore à l'hôpital, 52 qui sont en phase finalement entre la vie et la mort, hein, où le pronostic vital est engagé, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et pourtant, nous sommes dans un pays où nous avons les moyens. Nous avons vraiment les moyens. Et nous pouvons bénir le Seigneur d'être dans un pays comme le nôtre. Hein. Parce que quand ça se passe sous d'autres latitudes, je peux vous dire que c'est véritablement très très précaire, hein, les soins et tout ce que vous voulez. Alors, bon, peu importe. Mais toujours est-il que derrière ces situations auxquelles nous avons à faire face, qui nous viennent comme ça, sans nous y attendre, bien que nous soyons prévenus, nous les chrétiens, nous sommes prévenus. Hein, pas non plus. Nous nous disons, mais il y a un langage derrière. Qu'est-ce que veut dire cela? Alors, on va pas hypothéquer en cherchant, hein, en faisant intervenir toutes sortes de considérations comme font les hommes qui ont réputation d'être incroyants, qui ne comptent pas sur Dieu, mais qui comptent sur eux-mêmes, malgré leur commisération et leur dévouement et leur envie finalement de sauver leurs concitoyens. Ça, c'est pas à remettre en cause, hein, mais qui vont se perdre dans toutes sortes de considérations, hein, psychologique, politique, avec tout ce qu'il peut y avoir, hein, de diatribe, hein, de controverse, etc., etc. Si j'étais à sa place, ça ne serait pas passé. Enfin bon, vous connaissez un peu la chanson. Hein. Mais c'est terrible. C'est terrible. Alors, nous, pour nous chrétiens, et sans rentrer dans, tout en gardant l'équilibre, je me dis que Jésus répond à la question. Et les drames de cette histoire, de notre histoire, hein, contemporaine, hein, de ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, il y a derrière cela un langage et qui est compréhensible pour ceux qui ouvrent leur cœur et qui se laissent finalement conduire, eh bien, parce que Dieu nous dit, parce que la Bible nous dit. Alors, naturellement, je devrais faire, tout simplement, on ne le demande pas et on ne le demandera jamais, mais un commentaire public à l'extérieur. On dirait, mais il est complètement fou cet homme. Il est complètement malade. Allez chercher dans la Bible. Oui, parce que la Bible, c'est un livre de principes. C'est un livre de principes moraux. Ou moraux, si vous aimez mieux. C'est un livre où il y a des références, où il y a des repères. Et quand les principes, quand les références ou quand les repères n'existent plus dans une société, qu'elle soit civilisée ou arriérée en civilisation, parce que le bien, c'est le bien, et le mal, c'est le mal, on n'y changera rien, alors à ce moment-là, je peux vous dire que, de toute façon, la machine se détraque et ça va dans tous les sens. Et c'est bien ce qui se passe. Ici, hier, avant-hier, jadis, ça a toujours été comme ça. C'est pas parce que nous sommes dans une société, nous pourrions dire, high-tech, de haute technologie, que finalement, eh bien, nous avons les réponses à tout, hein. Nous avons des réponses à notre niveau, au niveau du cerveau, de l'intelligence humaine, mais la conscience, c'est une autre affaire. Et la Bible ne nous parle pas d'autre chose que de la conscience, que de cette intelligence renouvelée et régénérée par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il y a la deuxième lecture que nous avons faite, parce qu'il est bien question d'un changement et d'une transformation. C'est pour ça que c'est individuel, ça ne peut pas être collectif. Ça ne peut pas être une idéologie sociale, politique, humaine. Alors voilà, il y a dans ce langage deux aspects particuliers, deux faits tragiques qui surviennent. Le premier, c'est un fait de guerre, on va en discuter brièvement, des patriotes vont être massacrés par les armées de Pilate. Faut pas oublier que les Romains, ce sont les occupants. Et les patriotes, ce sont des juifs qui ont été trucidés, qui ont été dont le sang a coulé pour des raisons politiques, pour des raisons de guerre. Et puis le deuxième fait, c'est un accident. Voilà qu'à Jérusalem, il y a une tour qui s'appelle la tour de Siloé. Et il y avait des gens qui étaient au pied de cette tour. Pour un fait inconnu, qui ne nous est pas donné dans le texte, la tour s'est écroulée. Et il y a eu 18 personnes qui sont mortes. Misère. Alors, pourquoi? Pourquoi le fait de guerre? Et pourquoi l'accident? Et puis, le troisième point que nous verrons, c'est les causes et les solutions. Parce que le mal a sa racine. Le mal a des racines. Et nous verrons qu'il est présenté à travers un simple végétal qui est un figuier qui ne pousse pas, un figuier qui ne donne pas de fruits, un figuier qui est infécond. Et le propriétaire va venir et il va dire « Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ce figuier est planté dans ma vigne, il prend du terrain, il prend la place, mais il ne me donne jamais de fruits. » C'est la stérilité de la vie humaine sans Dieu. Comprenez? La stérilité d'une vie, d'une existence humaine où Dieu n'a pas sa place. Dans le cœur, dans la vie des gens. Parce qu'il y a une absence de fruits. On va voir ça d'ici quelques instants. Donc, quelques personnes qui se trouvaient dans l'entourage de Jésus est venue le trouver et lui raconte une histoire. En quelque sorte, ils se font un peu les journalistes de l'époque. Et ils lui disent, mais Jésus, est-ce que tu n'es pas au courant, tu sais? Avant-hier, dans les monts de Galilée, il y a eu quelque chose d'effroyable. Les armées de Pilate ont saisi des maquisards, des patriotes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous passé au fil de l'épée. Il ne nous est pas dit combien ils étaient. Peut-être ils étaient 10, peut-être ils étaient 100. En tous les cas, c'était un bain de sang. Alors, c'est sûr que pour les Juifs, dont Jésus était lui-même juif, ça ne pouvait que susciter une abjection, une abomination en disant « Mais c'est vrai qu'il y a eu ceci et cela, mais pourquoi Dieu a-t-il permis qu'il soit tué ?» Alors, Jésus va pas donner une réponse de cette nature. Hein. Qui est responsable, qui est coupable? Vous verrez, hein, dans le texte, Jésus ne juge pas. Mais il va soulever quand même le problème, un problème intérieur, un problème secret du cœur de l'homme. Et des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Ces gens étaient des patriotes religieux zélés, comme tous les juifs pouvaient l'être, et ils faisaient la guerre à l'occupant romain dans l'espoir de les vaincre et de les faire sortir de Palestine, de les faire sortir d'Israël, comme ça a été pendant des années. Dans la dernière guerre, on appelait ça les FFI, les maquisards, enfin, etc., etc., avec de bonnes raisons, finalement, eh bien, de se battre pour défendre la France, pour faire sortir les Allemands, pour les chasser, enfin, les Allemands, les nazis, en tous les cas. Et il y a eu, naturellement, des coups de main. Et je peux vous dire que il y avait des choses qui étaient justes, mais des choses qui étaient très injustes, parce que une fois qu'ils avaient fait un coup de main et qu'ils avaient tué quelques gradés allemands ou même des soldats allemands, ils s'enfuyaient, et c'était les populations des villages ou des villes qui étaient à côté qui étaient des otages. Et là, on ne se gênait pas de les tuer. Ceux qui avaient commis, hop, ils disparaissaient. Mais ils le faisaient sur la sacro-sainte, finalement, morale qui était la leur, il faut délivrer notre pays de l'occupant. Donc, c'était aussi injuste. Là, je ne sais pas, mais je pense que quand les armées de Pilate ont mis la main sur ces patriotes juifs, hein, qui étaient en train de certainement faire un culte à Dieu, puisqu'il est parlé de leur sacrifice, alors on peut le comprendre, hein, sacrifice parce qu'ils vont donner leur vie, on va leur prendre leur vie, et puis peut-être étaient-ils en train de prier Dieu à ce moment-là, mais toujours est-il, peu importe, ils sont morts. Ça, c'est ce qui compte, hein, c'est le résultat des choses. Mais on pourrait dire, mais l'occupant romain ne faisait que son travail d'ordre public en éliminant ces parasites de la société, parce que finalement c'était des bandits de grand chemin, ces patriotes. On pouvait les dire comme ça c'était la version des Romains, naturellement. Mais lutter contre l'Empire romain, c'était déjà peine perdue à l'avance. Hein. Ça, c'était, il y avait rien à faire. Hein. Mille fois plus fort qu'un petit groupe de soldats. Et puis d'un autre côté, les patriotes disaient, mais il faut absolument que l'on fasse. Chacun avait sa justice. Vous savez, faire la guerre, je ne voudrais pas vous choquer, mais c'est facile. C'est facile. C'est plus difficile de faire la paix. Hein. Ah oui, c'est plus difficile de faire la paix, parce que là, il faut faire des concessions, il faut faire toutes sortes de choses. Mais faire la guerre, c'est facile parce que des deux parties des guerriers ou des belligérants, l'un dira, il donnera une bonne raison, mais moi je fais la guerre parce qu'il y a ceci. Et puis l'autre dira, mais moi je fais la guerre parce que je me défends. Il y a le faible et le fort. Qui est fort, qui est faible? Et le fort, souvent, sait qu'il est très fort et il en profite. Le faible, souvent, il sait qu'il est faible, mais il y va quand même. Alors, on peut toujours prendre ces considérations en cause, mais toujours est-il que ces hommes, soldats galiléens, juifs, ont été complètement, eh bien là, tués. Ils ont été assassinés, nous pourrions dire. Et ça avait fait un bruit pas possible. À ce moment-là, alors on est venu le raconter à Jésus. Hein, à l'époque, il n'y avait pas le Figaro, il n'y avait pas le Monde, etc., etc. Il n'y avait pas les informations. Parce que maintenant, quand vous avez les informations, si vous avez un iPad, vous avez tout de suite l'information, ça sonne. Vous connaissez? Non, vous connaissez pas. Bah, achetez un iPad, vous verrez comment ça se passe. Alors moi, j'ai dit à ma femme, jour et nuit, maintenant ça sonne. Je lui dis, tu le mets où tu veux, mais je veux plus le voir. Hein? Et toutes les nouvelles importantes, ça ne fait que sonner. Alors bon, ça va, mais bon, je suis pas le président de la République quand même. Bon, toujours est-il que voilà l'information. Hein, on est venu le dire et Jésus, voilà. Et puis on va enchaîner et Jésus va leur dire, croyez-vous que ces Galiléens, que ces hommes dont Pilate a fait couler le sang pour fait de guerre, ont été plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Est-ce que vous croyez que les gens qui ont été tués cette nuit, est-ce que vous croyez qu'ils étaient plus grands pécheurs que tous les autres qui étaient là tout autour? Hein, il y avait 30 000 personnes à ce feu d'artifice de Nice hier soir. Certains voudraient bien y voir ceux qui sont des redresseurs de tort, ceux qui sont des légalistes à tout craint, voudraient bien y voir un jugement de Dieu sur ces personnes. Ah oui, mais ils sont morts parce que ils avaient péché. Croyez pas que les autres qui étaient à côté, c'est pas pareil. Soyons très vigilants par rapport à nos jugements nous-mêmes. Parce que quand il arrive quelque chose à quelqu'un, ayons cette sagesse d'équilibre que Jésus nous donne dans sa parole. Quand il dit ne jugez pas selon les apparences, mais jugez selon la vérité. Et il a raison, Jésus. Il a raison. Parce que même nous, quelquefois, nous voudrions y voir, ah, il lui est arrivé un accident de la route, mais s'il roulait moins vite, bon. Hein? Il y en a d'autres qui disent, mais il est mort d'ivresse, mais s'il avait moins bu. Bon, mais c'est vrai, tout ça, il y a quand même des vérités. Mais n'allons pas trop vite dans les jugements en disant, il a fait ceci, c'est normal que ça lui arrive. Dieu l'a puni. Écoutez, on n'est pas dans l'Ancien Testament, on est dans le Nouveau Testament. Dieu ne punit pas, il sauve. Pour que nous ne soyons pas punis. D'autre côté. C'est ça. Jésus est soit notre juge, mais il est avant tout notre sauveur pour qu'un jour il ne devienne pas notre juge. Sauveur. Rédempteur, celui qui vient nous arracher à la mort parce qu'il ne veut pas que nous mourions, il ne veut pas que nous périssions. Croyez-vous qu'ils étaient plus pécheurs que les autres parce qu'ils ont péri de la sorte? Faisons attention à ça. Hein. Alors, non, je vous le dis, parce que Jésus va répondre, hein. Non, je vous le dis. Jésus est venu pour sauver les hommes qui étaient perdus. Il est venu pour guérir les malades et non pas les bien portants. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, dans la version que je vous ai lue, mais considérons peut-être le texte plus précis dans la version classique, si vous ne vous repentez, mais repentir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire changer. Ça veut dire changer la repentance. À partir du moment où un homme se repent, il change. Il ne peut plus rester comme il était avant, parce que c'est pas possible. Ou alors c'est un bel hypocrite. Et ça, c'est pas lui qui change, c'est Dieu qui le change parce qu'il a donné l'autorisation à Dieu de le changer. Et la repentance, n'allons pas nous imaginer que c'est nous qui allons la déclencher parce que nous allons appuyer sur un bouton et du jour au lendemain, demain matin, je dis « Je me repens de tous mes péchés ». Ça se passe pas comme ça. La repentance, c'est un travail intérieur. C'est véritablement une prise de conscience profonde, douloureuse, qui nous amène à une tristesse d'avoir fait le mal et d'avoir négligé ou abandonné ou ignoré Dieu dans notre vie. Et nous avons fait ce que nous avons voulu. Pas le bien, mais le mal. Et là, prenons conscience à l'intérieur de nous-mêmes que Ça nous rend malheureux. Ça nous donne une image de nous-mêmes où nous nous sentons sales, où nous nous sentons morts, perdus. Et avec ce soupir et cette aspiration de dire, eh bien, maintenant, je veux que ma vie change. Seigneur, aide-moi à changer, je ne peux pas me changer moi-même. Un léopard peut-il enlever les taches de sa peau? Pas du tout, hein. C'est l'exemple biblique, hein. Je ne suis pas en train d'inventer une nouvelle histoire, hein. Et l'homme peut-il changer lui-même? Non, c'est l'Esprit de Dieu qui va le changer. Mais Dieu attend que nous lui disions, oui, Seigneur, aide-moi à changer. Aide-moi à voir ma vie transformée. Je ne peux pas y arriver moi-même. J'ai tellement essayé, par mes actes de dévotion religieux, etc., mes abstinences, mes sacrifices, mes jeûnes, etc., etc. Je n'y suis jamais arrivé, Seigneur, parce que je ne me sens pas capable. Je me sens tellement faible devant les tentations et le mal qui me surmontent, qui surmonte finalement ma bonne volonté. Non, c'est véritablement s'abandonner entre les mains de Dieu avec ses pleurs et ses cris en disant « Mais Seigneur !» Et il nous est dit que c'est une tristesse selon Dieu qui se change en joie et en bonheur. Parce que c'est le pardon que je reçois. Je suis en train de dresser un petit peu, en quelque sorte, l'armature du salut, là, hein, ou de vous le rappeler plutôt. Alors, mais si vous ne vous repentez devant ce que vous voyez autour de vous, tous les événements, les catastrophes, les drames, et de pouvoir dire, comme certains le disent ce matin, l'ont dit ce matin, pourquoi lui? Il était à côté, il était mon voisin, il est mort, et moi je suis encore en vie. Ce qui amène une culpabilité chez les gens. Pourquoi je vis? J'aurais pu être à sa place. Je pense que certains peuvent peut-être se tourner vers Dieu en disant, merci Seigneur, parce que je sois encore à voir la lumière ce matin. Hein. Mais est-ce que tout le monde le fait? Non, ils ne diront pas, Dieu m'a fait grâce. Beaucoup de gens disent, j'ai eu de la chance. Pas tout à fait la même chose. C'est ma bonne étoile. Encore moins, la même chose. Alors, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Parce que pour être sauvé, il faut se tourner vers Dieu. Pour être sauvé, c'est pas par nos efforts, c'est pas par notre religiosité, c'est pas par notre moralité même, ou notre moralisme, ou notre légalisme, tout ce que vous voulez en isme, parce que un isme en géographie, ça ne mène nulle part, hein. C'est une bande de terre qui va dans la mer et qui ne mène nulle part. Alors tous les ismes, on les laisse de côté. Donc, vous périrez tous également. Et Jésus va continuer. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elle soit plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? 18 personnes sont mortes. Et combien de blessés? Parce qu'il ne nous est pas dit, hein. C'est comme les soldats, ceux qui se sont enfuis. Il y a ceux qui ont été assassinés et puis tous ceux qui se sont enfuis. Mais là, c'est pareil. Il y a toujours des blessés et puis il y a toujours finalement des morts dans tout ça. Ces gens étaient rassemblés auprès de la tour de Siloé, qui devait être une tour quand même assez considérable pour l'époque. Et est-ce qu'il y a eu un petit tremblement de terre? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Ou est-ce que cette tour, qui était véritablement eh bien, un monument tutélaire dans la ville de Jérusalem, après des siècles et des siècles, à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, paf, elle s'est écroulée. Et puis elle s'est écroulée, et puis tous ceux qui étaient en dessous, eh bien, ils sont morts. Ils sont morts. Jésus le rappelle. Est-ce que vous croyez que ces gens qui sont morts, qui ont perdu la vie, là, c'est accidentel, c'est pas un fait de guerre, c'est accidentel. Est-ce que vous croyez que parce que ces gens sont morts par accident, c'est Dieu encore qui a permis que cette tour s'écroule et qu'il y ait des morts? D'ailleurs, je voudrais vous dire, peut-être il est bon de le dire encore, une fois de plus, mais Dieu n'est pas l'auteur du mal. Il n'est pas l'auteur de la guerre. Il n'est pas l'auteur de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est criminel, et de tout ce qui est abject sur la terre. Non. Dieu n'est pas l'auteur de tout ça. Quand on entend quelquefois certaines réponses ou certaines exclamations, c'est le bon Dieu qui t'a puni. Mais où on est là? Quand on entend dire que finalement, eh bien, s'il m'arrive ceci, cela, eh bien, c'est le bon Dieu, tout simplement. Le bon Dieu, excusez, mais il est bon à être accusé. C'est tout, partout, en tout. Mais par contre, celui qui en est l'auteur, celui dont nous avons vu, il y a 8 ou 15 jours, dans un autre texte de la Bible, quand il nous est dit qu'il est le meurtrier depuis le commencement, qu'il est menteur, qu'il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, le premier de tous les meurtriers du monde, à commencer par Caïn, qui a tué son frère Abel, l'inspiration venait bien de quelque part. Celui-ci, il travaille dans l'anonymat, et il se frotte les mains. Il se dit, moi, le travail se fait, c'est formidable. Et il s'en va. Comme dans la parabole, vous savez, du bon gré de l'ivraie, il nous est dit que c'est un ennemi qui a fait cela. Et il est venu de nuit pendant que les serviteurs dormaient. Matthieu chapitre 13. Là, on est dans Luc chapitre 13. Vous pourrez le relire, c'est des belles histoires. C'est des histoires que Jésus nous donne sur des réalités de la vie, finalement. Et des réalités cachées, des réalités secrètes que les hommes qui ne connaissent pas la Bible n'iraient jamais penser. Ou s'ils y pensent, ils se disent, mais arrêtez avec vos balisvernes de la Bible et d'Évangile. C'est plus de mode. Eh bien, justement, les principes de la vie, les principes de la morale, la vraie morale, pas la morale religieuse ou la morale humaine, mais les vrais principes de la morale, c'est la source et ce sont les sources de la vie. Et c'est Dieu qui a créé la vie. Et s'il a créé la vie, c'est pas le destructeur de la vie. Au contraire, il est le préservateur de la vie. Alors croyez-vous qu'il soit plus coupable que tous les habitants de Jérusalem? Mais ils sont morts. Ils sont morts, ces pauvres gens. Donc deux faits tragiques, la guerre, les faits de guerre, la criminalité de la guerre, les meurtres de la guerre, et puis il y a naturellement l'accident, comme nous avons vu. Mais on ne pourrait pas s'arrêter là, puisque Jésus laisse supposer qu'il y a encore autre chose. Et que dans cette autre chose, nous y trouvons les causes, nous y trouvons les racines du mal. Pourquoi le mal existe-t-il? Pourquoi Dieu se tait-il devant le mal? Non, il ne se tait pas. Non, Dieu parle. Et il ne va pas parler avec des révélations transcendantes d'un ange qui va venir vous dire « mais voilà, ceci et cela ». Non, Dieu parle à la conscience des hommes. Et nous savons tous que Dieu a mis à l'intérieur, dans la création humaine, une boussole. Et cette boussole, comme toute boussole, elle indique la direction, le nord. Mais on peut déboussoler la boussole. Hein. Et je crois que l'humanité a perdu la boussole et il ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est juste, ce qui est injuste, ce qui est pur, ce qui est impur. C'est pour ça qu'il y a un grand mélange dans ce monde et une confusion intellectuelle, à commencer par là, de compréhension cérébrale, nous pourrions dire, parce qu'il ne sait plus où il en est rendu. Et nous nous apercevons qu'il y a des racines au mal qui s'opposent au bien, qui s'opposent au silence de Dieu. Mais Dieu ne se tait point. Il parle et Jésus est en train de nous donner des solutions. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Pour illustrer ce que nous avons dit il y a un instant, ces deux faits tragiques qui nous parlent du langage des drames humains. Il nous dit tout simplement, ces paroles, cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Alors aujourd'hui, ça se fait plus beaucoup dans nos cultures industrielles, hein, dans notre horticulture ou arboriculture, on mélange pas les arbres. Hein. Vous avez des kilomètres et des kilomètres de pommiers, de pêchers, de cerisiers, etc. Et y a pas... Mais dans le temps, les gens avaient des petits lopins de terre et ils mettaient de la vigne, ils mettaient des pêchers, ils mettaient d'autres arbres fruitiers. Ça poussait en même temps. C'est l'image. Hein. On n'en est plus là aujourd'hui. Alors, ce propriétaire avait donc un figuier. Il l'avait planté dans sa vigne. C'est tout à fait normal parce qu'il espérait que la vigne lui donne du raisin et que le figuier lui donne des figues. Vous êtes d'accord, hein, dans le principe, hein? C'est pas le contraire, hein? D'accord? Bon. Mais non, je dis ça parce que Jésus nous a dit, est-ce que on peut récolter, du raisin sur du figuier? Et puis, non, pas le serment sur la montagne aussi. Mais c'est un petit peu la confusion, finalement, des hommes. Alors voilà. Donc, quand on sème le bien, on reçoit le bien. Quand on sème le mal, on reçoit le mal. C'est normal. Et qui est responsable dans cette affaire? C'est surtout pas Dieu. C'est souvent nous qui sommes des artisans, quelquefois, de ne pas avoir suffisamment entendu la voix de Dieu dans notre conscience pour nous dire, attention, il y a danger, il y a péril, ne va pas plus loin, etc., etc. Mais nous avons cette propension à vouloir, par curiosité, voir comment ça se passe et que ça nous tombe sur le nez, ça nous tombe sur la tête. Et après, on a compris. Si encore, on a compris du premier coup. Ce qui n'est pas garanti. Alors, donc, voilà un peu la configuration. Un figuier planté dans une vigne, le propriétaire se dit, moi je vais, c'est normal, hein, ma vigne, elle est faite pour produire, et elle est faite pour produire du bon fruit, et je m'attends à ce que la vigne donne du raisin, et le figuier, des figues. Il va pour y chercher du fruit, un beau jour, à la saison naturellement, hein, pour bien remettre les choses, et il n'en trouve à point. Il a regardé, il a dit, il est beau mon figuier, il a de belles feuilles, il est beau, il est grand, etc. Mais il a regardé sous les feuilles, etc. pour les faire voler, un peu les déplacer. Rien du tout. Pas un fruit. Rien du tout. Imaginez-vous, déception. Et il devait se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dû se poser la question, finalement, de l'anomalie ou de l'anormalité de ce végétal. Il a dû dire, voilà, il y a quand même quelque chose qui va pas, parce que normalement, il devrait, moi, dans mon voisin, chez mon voisin, eh ben, son figuier, il lui donne des figues. Moi, il donne rien. À quoi ça sert d'avoir un bel arbre, bien enraciné, avec des feuilles bien vertes, alors que vous savez que normalement, son but, le but du figuier, c'est donner des fruits, et qu'il n'y a pas de fruits. C'est un peu à l'image de l'humanité, hein. Dieu a créé l'homme pour qu'il porte des fruits. Pour qu'il puisse être à la ressemblance de son créateur. Vous voulez que je vous donne quelques fruits? De ce que l'humanité, l'homme lui-même, le chrétien en particulier, ce que nous sommes, nous portions. Eh bien écoutez, c'est très simple. Dans Galates, et vous allez m'aider parce qu'il y en a 9 fruits. 9 fruits de la vie de communion avec Dieu. Il y a l'amour. Il y a la joie. Il y a la paix. Il y a la douceur. Il y a la bonté. Il y a la tempérance ou la maîtrise de soi. Il y a la foi. Il y a la longanimité, c'est-à-dire de supporter avec patience la souffrance. Et l'autre? Comment? Là, je l'ai dit. Ben, vous regarderez, hein, vous vérifierez. Moi, j'en cite toujours 7 ou 8, mais j'en arrive jamais à saisir le 9e. Bon, c'est pas grave. Ben, toujours est-il, ce sont des fruits. Ce sont des fruits qui doivent émaner de la nature humaine. Et quand on voit le monde dans lequel on est aujourd'hui, regardez ce que nous avons été témoins encore ces derniers temps, c'est la haine, c'est cette tristesse, c'est également l'impatience des hommes, c'est le manque d'équilibre et l'intempérance. Enfin, bon, on peut remettre tout et son contraire naturellement. Ça, c'est la nature qui n'a pas été régénérée, qui n'a pas été transformée par l'action de l'Esprit de Dieu et l'action de la parole de Dieu. Qui fait que l'homme, eh bien, renfermé dans son égoïsme et dans sa vision étroite, eh bien, peut être véritablement très méchant avec les autres. La preuve. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il a dit au vigneron, parce que c'est le propriétaire, ça, mais il est venu voir son métayer, on appelle ça comme ça, le vigneron, et il lui a tenu ses propos. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, pas la première année, pas la deuxième, pas la troisième. Là, il n'est pas très, très, très heureux. Et je n'en trouve point. Et il va lui donner cet ordre, cette injonction, puisqu'il est le propriétaire, il a le droit de faire ce qu'il veut, comme Dieu a le droit de faire ce qu'il veut de la vie des hommes. Mais quand on entend cette parole de l'apôtre Pierre dans son épître, que Dieu use de patience pour que les hommes, il leur donne du temps, pour que les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés, que Dieu attend qu'ils se repentent. C'est pour ça que Dieu use de patience. C'est pour ça que les plus grands criminels de la terre, et même les plus ou les moins, peu importe, dans cette humanité pécheresse, que Dieu nous laisse vivre. Quelquefois on dit c'est les meilleurs qui partent les premiers, hein. C'est moi je l'ai souvent entendu quand il y a un décès. Ah, il était bien, il était bon, etc. C'est toujours les meilleurs qui partent les premiers. Oui, c'est ce que nous avons entendu. Mais toujours est-il que Dieu fait grâce, et là quelquefois c'est insupportable, parce que ça nous semble une injustice terrible, en disant mais lui il a fait du mal. Qu'il s'appelle Adolphe, hein, ou qu'il s'appelle Staline, ou tout ça, on dirait, mais moi, si j'étais à la place de Dieu, je trancherais. Vous voyez, avec quelle véhémence, hein, je ferais bien un homme politique, hein, quand même. Hein. Mais avec quelle véhémence on dit les choses, mais... Bon. Les choses, Dieu est un Dieu de miséricorde et de grâce. Alors, on a du mal à le comprendre, parce que quand on voit les atrocités et l'abomination, l'abjection, quand on voit certains comportements infernaux de certains personnages, on se dit, mais il n'y a plus personne, là, il faudrait qu'il n'y ait plus personne. Alors, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit, il y a la notion de patience de Dieu, là, hein, et je n'en trouve point. Mais le propriétaire, lui, ne pense pas comme Dieu, il dit, coupe-le. Pourquoi occupe-t-il le terrain inutilement, le sol inutilement? Et c'est vrai. On se dit, on n'a qu'une vie. Mes amis, on n'a qu'une vie. D'accord? Vous êtes d'accord? On n'a qu'une vie sur terre. Et c'est quand même bête. Finalement, de passer cette vie à la dilapider comme le fils prodigue. Et d'arriver à la fin de la vie, comme souvent nous l'avons entendu dans les personnes âgées, au soir de leur existence, de dire, si c'était à refaire, je referais plus que j'ai fait, je ferais autrement. Donc le bilan est quand même négatif. Ouais. Ils ont consommé la chandelle par les deux bouts, ils se disent, mais voilà, j'ai tout gâché dans ma vie. J'ai voulu courir après l'argent, j'ai voulu courir après ceci et cela, et j'ai détruit ma famille, j'ai détruit mon couple, j'ai détruit mes enfants, etc. Ce sont des bilans de la vie, ça. Et vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est complètement désorganisée, décomposée. Nous sommes dans un monde où les familles sont dysfonctionnelles. C'est pour ça qu'il y a tant de révoltes chez les enfants. Et les enfants ne veulent certainement pas faire comme les parents, parce qu'ils n'ont pas envie de vivre ce que les parents ont vécu et ce qu'ils leur ont fait vivre aussi. Tout est en train de partir en miettes. Eh oui, c'est la société, elle est comme ça naturellement. Couple, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? Écoutez bien, le vigneron, qui est l'image de Jésus, le vigneron, c'est l'image de Jésus, hein, répondit, « Seigneur, laisse-le encore une année. » Et le message de l'Évangile est là, la réponse à ces faits de guerre dont nous avons parlé, à cet accident qui a tué ces 18 personnes, la réponse, elle est là, mes amis, quand on sait lire la Bible, quand on a bien compris le contexte, quand on fait un peu d'exégèse biblique, on comprend que les deux chapitres, ils sont ensemble. Laisse-le encore une année. Moi, j'entends le message de l'Évangile de Jésus. Prête-leur encore un peu de vie. Donne-leur encore un peu de temps. Parce que moi, j'ai fait à leur place ce qu'ils ne pouvaient pas faire pour être sauvés. Quand Jésus est monté à la croix, il l'a fait pour chacun d'entre nous. Il l'a fait pour les bons, il l'a fait pour les mauvais. Il l'a fait pour les justes et pour les injustes. Et il faut que cette parole que nous entendons ce soir, qui est le message de l'Évangile, qui s'appelle la bonne nouvelle en grec, parce que c'est ça la traduction, bonne nouvelle, il faut que le monde entier, que les hommes, ici, ailleurs, partout, entendent que Dieu a donné Jésus-Christ et qu'à travers son sacrifice, eh bien, il a pris notre place, il le dit à la croix en mourant, tout est accompli. Et que c'est pas une question de chercher nous-mêmes à nous sauver, mais c'est Jésus qui nous sauve. Une seule condition pour que nous soyons sauvés, c'est que nous croyons à ce message. Tout simplement. Ce n'est pas par les œuvres, nous dit Paul, mais c'est par la foi, c'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par notre religiosité, ce n'est pas par ceci et cela, mais c'est parce que Jésus... Eh bien, j'ai entendu ce message et j'y crois de tout mon cœur, puisque Jésus me dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est tout simple. Et pourtant, ce message tout simple, des hommes par millions le rejettent. Ils préfèrent encore leur tradition religieuse. Ils préfèrent encore leur routine, parce que le message de l'Évangile les embarrasse et les dérange dans leur conscience. Et il suffit tout simplement de se repentir, de venir à Dieu, d'invoquer le nom de Jésus. C'est ce que nous dit le livre des Actes des Apôtres. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sauvé. Simplement sauvé. Il ne sera pas perdu, il sera sauvé parce que je crois. Je suis sauvé par la foi. Laisse-le encore. Laisse-le pousser. Et le vigneron lui, mais je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Alors bien sûr, hein, ce sont des termes agricoles. Mais quand on voit tout ce que Jésus a creusé autour de nous pour que nous frayions un chemin, il a fait une route, il nous a dit qu'il a inauguré une route nouvelle pour nous conduire jusqu'au ciel. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, nul ne vient au Père que par moi. Jésus a creusé et il a mis cet engrais, il a mis cette nourriture qui est la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. En lisant la Bible, ma foi grandit. Ma foi naît d'abord. Elle grandit, elle s'accroît, elle se développe. Je trouve de nouvelles dimensions. Ça fait 45 ans, je crois, que je lis la Bible. Je suis encore comme un homme qui est près du rivage, devant un océan, j'ai pas tout. Je suis encore comme si je ne savais rien. Et pourtant, j'ai appris des choses. Ouais. Je suis devant l'infini, devant l'incommensurable, où j'ai l'horizon devant moi, et c'est l'horizon de l'éternité et de l'univers. Ouais. Je mettrai de l'engrais, je mettrai ce qu'il faut. Et Dieu nous a tout donné pour tout ce qui contribue à la vie et à notre foi, à notre vie de foi. Et c'est pour vous. C'est pour chacun d'entre nous ce soir. Peut-être à l'avenir, dit le vigneron au maître, qu'il lui veut couper, veut supprimer. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit. Vous savez que Dieu a un grand espoir pour chacun d'entre nous. Dieu est rempli d'espérance pour chacun d'entre nous. Dieu n'a pas renoncé à nous perdre. Le diable veut notre tête. Mais Dieu veut nous sauver. Peut-être portera-t-il. Mais le peut-être dans ce peut-être, c'est ma décision. Si moi je le veux, si moi je le décide, si moi je le choisis, si moi je prends cette option qui m'est présentée. Vous savez que il y a quelque chose de formidable, enfin, moi je parle pour moi, mais je pense que c'est aussi la pensée commune hein, de la majorité d'entre nous. Moi je suis heureux d'être chrétien et j'en ai pas honte. Ouais. Ça vous surprend? Non. Non, c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'aurais-je été, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'avais 19 ans. Qu'aurais-je été? Je ne peux pas le dire parce que je ne l'ai pas vécu, j'ai vécu autre chose. Mais quand je vois ce que j'étais avant, avec mes craintes, avec mes peurs, avec toutes sortes de choses, mes angoisses de la mort, je me dis, mais Seigneur, tu m'as appelé, tu m'as choisi, et c'est quelque chose de formidable d'avoir mené la vie avec toi dans mes choix, dans ce que j'ai pu choisir, dans ce que nous avons pu faire. Ouais, bon, on n'a pas eu, moi j'ai pas de yacht à Cannes, j'ai pas de maison à moi, etc., etc. Je sais qu'il y en a d'autres qui n'ont pas de maison à eux, mais toujours est-il que une chose qui est certaine, c'est que le Seigneur nous a donné le bonheur. Mais ce bonheur, il n'est pas dans les choses extérieures. Bien qu'il nous faille ce qu'il faut pour vivre. Mais il est à l'intérieur de moi-même. Et je sais que tous les chrétiens, eh bien, c'est ce qu'ils disent. Ouais, le vrai bonheur, il est à l'intérieur. À l'intérieur de soi-même. Mais si vous ne repentrez, pardon, je me trompe de texte, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Et le maître dit non, bah, sinon tu le couperas. Parce qu'il arrivera toujours à un moment ou à un autre lorsque nous avons entendu l'évangile. Où nous quitterons cette terre par le fait même de la nature. Je veux dire que nous naissons et nous mourons. Et à un moment donné, eh bien, il faut partir. Alors encore heureux si ceux qui peut-être au dernier moment, avant de rendre l'esprit, le dernier souffle, se tourneront vers le Seigneur et diront « Seigneur, je crois en toi, sauve-moi ». Ça fait comme le larron sur la croix. Il a été sauvé in extremis. Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Jésus lui répond aussitôt. Tu seras avec moi dans le paradis. Mais celui qui ne veut pas, qui s'obstine, et qui dit, non, je ne veux pas croire en Dieu, non, je refuse. Alors à ce moment-là, eh bien, on peut dire qu'il est coupé. Parce que sa vie a été une vie inutile. Parce que sa vie a été une vie sans fruit, une existence inféconde, une existence stérile. Parce que nous sommes faits pour le ciel. Dieu nous a créés pas tant pour la terre, mais il nous a fait pour le ciel. Notre vie sur la terre, c'est une école, en quelque sorte, pour nous préparer de l'autre côté. Ça durera 60 ans, 80 ans, 100 ans. Je ne vais pas aller trop loin. Hein. Il faut faire attention à Alzheimer, parce que là, on comprend plus rien. Mais toujours est-il, quoi qu'il en soit, nous avons été préparés. Pourquoi nous naissons? Pourquoi nous sommes sur la Terre? C'est parce que nous avons une autre destination, qui est une destination d'éternité dans cette création de Dieu qui n'a rien à voir avec ce monde. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Que Dieu nous donne sa grâce. En croyez à Jésus-Christ et acceptez Jésus-Christ dans votre cœur. C'est lui le principal. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté et ta fidélité. C'est vrai que nous sommes confrontés tous les jours avec les drames de l'existence. Et c'est vrai que nous voulons compatir avec tous ces gens qui sont en effet des victimes. Victimes de la sottise, victimes de la cruauté, victimes de la folie, victimes de l'intégrisme des hommes, quels qu'ils soient d'ici ou qu'ils soient d'ailleurs. C'est toujours la même folie, Seigneur, folie meurtrière, et dont, en effet, celui qui les inspire n'est autre que le diable et que l'enfer. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, nous croyons que, en effet, tu nous as raconté une histoire cet après-midi, ce soir, pour nous dire, Seigneur, que ce soit l'effet de guerre qui nous trouble, que ce soit l'accident qui frappe des populations, que ce soit, Seigneur, d'autres circonstances catastrophiques qui emportent les hommes de ce monde dans l'autre, eh bien, ta parole nous dit, si vous ne changez, si vous ne vous repentez, eh bien, il n'y aura pas de possibilité tout autre que celle de croire que Jésus est notre Sauveur, d'accepter Jésus comme notre Sauveur personnel, de nous repentir de nos péchés, de nous convertir à Jésus-Christ et non pas à une Église, et ainsi de naître de nouveau, de transformer pour que notre existence qui était une existence vaine, sans fruits, improductive, inféconde, devienne véritablement une existence qui soit à la gloire de Dieu avec l'amour et avec tout ce qui va avec l'amour. Et nous t'en bénissons et nous te remercions dans le nom béni de Jésus-Christ. Amen.
pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.